Hello, bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Humbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview d'entrepreneuse inspirante. Et aujourd'hui, j'accueille Bertille, qui est rencontrée dans la communauté GNG, en fait,
oui.
Dire, et qui se trouve être... une entrepreneuse accomplie, puisqu'aujourd'hui, tu fêtes les 10 ans, enfin pardon, pas aujourd'hui, cette année, tu fêtes les 10 ans de ton entreprise, de Lost in Web, donc déjà, félicitations à toi.
Merci beaucoup.
Et Bertie a plein de conseils, organisation à nous transmettre aujourd'hui, donc merci Bertie d'avoir accepté l'interview.
Avec très grand plaisir, bonjour à tous.
Et du coup, je vais te demander, Bertie, de commencer juste par te présenter brièvement, parce qu'après, il y aura une question plus tard qui va te demander de présenter un petit peu ton parcours. Donc, aujourd'hui, que fais-tu, Bertie?
Donc, comme vous l'avez compris, je m'appelle Bertie. Donc, aujourd'hui, moi, je suis entrepreneuse depuis 10 ans, mais ça fait 2 ans que je suis entrepreneuse à temps complet. On reviendra sur le parcours par rapport à ça. Okay. J'accompagne en gros les entrepreneurs sur toute la partie stratégie de communication. Donc ça peut passer de la formation à le consulting aussi pour ceux qui ont besoin vraiment d'avoir un accompagnement sur du moyen long terme ou encore même à la délégation pour ceux qui souhaitent déléguer la gestion de leurs réseaux sociaux. En gros, c'est un peu les 3 grands pôles que j'ai aujourd'hui.
Ok, très bien. Et du coup, alors pour te connaître un tout petit peu mieux, j'ai toujours une petite question un peu fun à poser, qui est la question du portrait chinois. Donc, je t'ai transmis en avance quelques petites idées d'items, et je t'ai demandé d'en choisir 3. Donc, du coup, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as choisi?
Oui. Alors, j'ai choisi le jeu, donc jeu vidéo, société ou jeu de rôle, la pièce de la maison et le super pouvoir.
Ok.
Donc, si j'étais un jeu, alors j'ai pas de nom de jeu exact, je transgresse un tout petit peu les règles, mais je serais sur un jeu coopératif, puisque j'estime que tout doit se faire en coopération, et quand je travaille avec mes clients, je suis vraiment sur le côté partenariat, donc il y a plein de jeux coopératifs qui existent, donc en citer un seul, c'est un petit peu compliqué. Si je dois parler après à titre personnel, un que j'apprécie énormément, c'est un jeu de plateau qui s'appelle Zombicide, où toute l'équipe est contre les zombies. Donc, on doit tuer des zombies, tout simplement. C'est assez, assez sympa. Et le but, c'est de mettre en avant les forces de chacun et de savoir bien les utiliser. J'estime que c'est comme ça que je travaille avec mes clients, justement, de révéler leurs forces et de bien les utiliser.
Ok. D'accord. Et voilà. Du coup, alors, Zombicide, c'est un jeu auquel tu joues?
Oui, j'adore. J'ai plusieurs boîtes à la maison. C'est des grosses boîtes de jeux, avec plein de figurines à l'intérieur, donc plein de zombies. Et j'y joue depuis déjà pas mal d'années. J'ai pour ma part toutes les versions, j'ai toutes les versions du jeu, dans toute la partie médiévale fantastique, parce qu'il existe aussi une version du jeu contemporaine, voire contemporaine futuriste. Moi, je suis sur la partie médiévale fantastique, donc avec des orgues, des licornes, des dragons, et toute cette partie-là.
Ah, chouette. Ouais. Je t'avoue, j'y ai jamais joué. Mais j'aime bien les jeux coopératifs, effectivement. Ouais.
C'est un jeu assez long. C'est minimum une heure de jeu. Hein. C'est rare de faire moins.
Ok. Ok, très intéressant.
Ensuite, si je suis une pièce de la maison, moi, clairement, ce serait le côté salon. L'endroit où on peut se réunir, où on peut partager, où on peut échanger, où on peut se poser. Aussi le côté s'affaler, discuter, c'est vraiment l'idée que j'avais un peu en tête, c'est cette partie-là qui pour moi est un peu le cœur de la maison et l'endroit où les choses se passent, en tout cas pour moi. Et c'est aussi un endroit où on va avoir ce côté, on va être un peu plus chill et on va peut-être oser des fois dire des choses qu'on n'ose pas dire dans d'autres circonstances parce qu'on est plus posé, parce qu'on prend le temps, parce que on est dans le canapé, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère cette partie-là de la maison, on va dire. Et puis, étant une grande joueuse et eh ben, beaucoup le cinéma et les séries. Je suis souvent dans mon canapé aussi, devant la télé, honnêtement.
Ok, d'accord, donc le salon, ouais. Mmh. Très bien. Je te laisse et... continuer avec le troisième.
Ouais, pour terminer, mon super pouvoir, alors là, il est vraiment lié à l'entrepreneuriat pur et dur. J'ai hésité entre deux, mais si je dois en choisir un seul, c'est vraiment la manipulation du temps. On va dire pas forcément l'arrêter ou quoi, mais pouvoir le distordre et l'utiliser comme on en a besoin, parce qu'on sait que c'est une des ressources les plus précieuses en tant qu'entrepreneur, de pouvoir avoir le temps de faire ce qu'on veut, de pouvoir, enfin les deadlines et choses comme ça. Même si globalement, j'ai pas de problématique à tenir des deadlines, 24 heures dans une journée, des fois, c'est trop peu. Et des fois aussi, c'est trop. Donc, pouvoir distordre un petit peu tout ça, ce serait vraiment le super pouvoir que, ultime que j'adorerais avoir.
Ok. J'avoue que quand j'étais ado, que je regardais la série Charmed, je me posais la question, tu sais, de quel pouvoir j'aimerais avoir.
Ouais.
Et effectivement, le pouvoir, du coup, d'arrêter le temps, mais j'avoue, le distordre, ça pourrait être pas mal aussi.
Oui.
C'est vraiment le pouvoir que je trouve super puissant, en fait.
Très puissant. Très... Le temps, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Donc, c'est incroyable si tu peux le maîtriser.
Carrément. Et du coup, ce que je peux te demander, avec lequel tu... Je ne trouve plus
le avec
mot.
Lequel j'hésitais.
J'hésitais.
J'hésitais avec la téléportation, parce que, justement, on en parlait justement un petit peu avant en off. Le fait de devoir faire des déplacements, d'être confronté des fois à des bouchons, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me m'horripile un petit peu. En plus, à titre personnel, j'ai un gros passif avec la SNCF. J'ai des gros problèmes avec eux. Je n'en dirai pas plus pour voilà, mais j'ai des gros problèmes avec eux. Et donc, la téléportation serait ultime. Et puis même, je pense à titre perso, pouvoir aller voir les gens quand on veut, pouvoir partir en voyage plus facilement, ouais. etc. Alors bien sûr que je veux dire, dans le vrai monde de la vérité véritable, ce serait très complexe parce que ça mettrait beaucoup de personnes au chômage. Donc, c'est pas le but, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, la téléportation, ce serait incroyable de pouvoir aller là où on veut, là où on a besoin, en fait, à un moment T, et de compresser ça va avec le temps, hein, mais de compresser ce temps de déplacement, qui est souvent un temps un peu stérile où on peut pas faire grand chose et qui est difficile à rentabiliser quand on conduit, justement, quand on n'est pas. Dans un train ou dans un moyen de transport où c'est pas nous qui conduisons, quoi, en gros.
Ouais, et puis de toute façon, qui est fatigant de manière générale, même quand on conduit pas et qu'on bosse dans le train.
Ça fatigue.
Moi, je trouve ça incroyablement plus fatigant que de bosser chez soi, en fait.
Ça, c'est... Oui. Il y a une ambiance qui est pas du tout la même et je trouve que ça... Alors, des fois, ça peut être intéressant en termes de créativité, ça te permet un peu de sortir de ta zone de confort, enfin, de penser autrement, mais c'est plus fatigant et ça te demande plus de concentration, je trouve. Je suis d'accord avec toi.
Ouais. Mais j'avoue, pareil, la téléportation, trop un rêve, quoi.
Mais... Trop pratique.
En fait, moi, quand je pense téléportation, à chaque fois, je pense aux problématiques qu'il pourrait y avoir, tu vois, genre, et si je me téléporte et qu'il y a quelqu'un à l'endroit où je me téléporte, un mur, ou...
Est-ce que j'arrive sur ses genoux? Est-ce que j'arrive coincé dans le mur? Comment ça se passe? Ouais, je suis d'accord. Faudrait des zones, tu vois, un peu comme un peu comme dans Star Trek où t'as des zones où tu vas, tu téléportes d'un endroit à l'autre et tout. Que ce soit un peu réglementé, ce serait plus simple.
Mais clairement, mais en fait, en vrai, si on pouvait tous se téléporter, ce serait grave le bordel, je pense.
Oh oui, ah bah ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Ce serait vraiment un mess total.
Ouais. Ok, bon bah du coup, merci beaucoup pour cette petite mise en bouche qui nous permet de te connaître un petit peu mieux.
Avec plaisir.
Et bah maintenant, ce que je vais te demander, c'est de nous expliquer un petit peu le parcours qui t'a mené à aujourd'hui avoir un business qui fonctionne de formation, coaching et prestations en communication.
On va revenir assez loin en arrière parce qu'on va revenir du coup il y a 10 ans.
Ouais.
Il y a 10 ans, je venais de terminer mes études et donc je venais d'avoir mon diplôme. Donc diplôme en chef de projet multimédia et j'ai commencé à travailler dans une entreprise, ça se passait très très bien, c'était super. Et à la fin de mon contrat, parce que c'était un CDD, ils m'ont proposé de rester travailler avec eux mais en freelance parce que c'était trop complexe pour eux d'embaucher quelqu'un, ils étaient dans une phase de développement d'entreprise où ils avaient besoin de ressources sur d'autres sujets et en plus ils n'avaient pas assez de quoi faire un temps plein. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ils m'ont dit, est-ce que tu veux continuer à travailler avec nous? Je dis, avec plaisir. Et si tu veux, mets-toi en freelance. Je dis, pourquoi pas? Allons-y, testons, on verra bien, j'ai rien à perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc pendant plusieurs années, j'ai continué à travailler avec eux et j'ai commencé à avoir des postes salariés en parallèle, quoi. Et au départ, je le voyais vraiment comme un side business, comme quelque chose qui n'allait pas aller plus loin. C'était vraiment un peu limite argent de poche à côté. Et j'appliquais ce que je faisais en entreprise. Donc j'appliquais les mêmes compétences et je ne cherchais pas forcément à aller plus loin, en tout cas les premières années. Et puis, au bout d'un moment, ça a commencé à prendre petit à petit. J'ai été contactée pour donner des formations parce que, bah, comme j'avais une expertise sur la partie réseaux sociaux, on m'a demandé. Et c'était un peu l'époque aussi où Facebook, Twitter, tout ça, c'était encore un petit peu nébuleux pour beaucoup de gens. Donc, il y avait des besoins aussi de pédagogie, d'explication et de rassurer aussi beaucoup autour de ces sujets-là. Ouais. Donc, j'ai été contactée, j'ai accepté. Ça a été la première formation que j'ai donnée. Elle a été horrible pour moi, hein, pas pour les participants, mais pour moi. Je transpirais, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais la voix qui tremblait, j'avais fait des fautes sur mon support et je les voyais pendant que je leur expliquais. J'étais en panique totale, mais ça s'est entre guillemets bien passé. Moi en intérieur, c'était horrible, mais ça s'est bien passé pour les participants globalement.
Ouais, ça s'est pas vu quoi.
Non, ça a été. Enfin, ils ont bien vu que j'étais un peu stressée, mais ça allait quoi. Et puis on était quoi, ils étaient 5, ça va, j'étais pas devant 100 personnes d'un coup, tout de suite, donc ça a été. Et du coup ça m'a permis de développer le goût pour la formation et la transmission, de plus en plus. Et au fur et à mesure des différents postes salariés que j'ai eus, j'ai bien vu que la communication ça m'attirait, c'était ce que je voulais faire. Pas que la partie potentiellement création graphique ou autre, mais vraiment aussi le côté stratégique, la communication, comment on échange, comment on crée du lien, comment on se vend aussi, comment on se met en valeur via les réseaux sociaux notamment. Mmh. Et de fil en aiguille, j'ai vu que mon entreprise, elle prenait de plus en plus de place dans ma tête déjà. Et j'avais de plus en plus envie de la développer. Et donc, maintenant, ça doit faire 6 ans et demi. J'ai contacté une entreprise que j'avais connue à titre, donc en tant que freelance. J'avais donné une formation pour eux. Je les ai recontactés, je crois ça faisait un an que j'avais fait la formation avec eux. Et je leur ai dit, en gros, je vous avais fait une formation Facebook. Je vois que votre page Facebook, elle n'a pas bougé. Est-ce que vous cherchez quelqu'un en interne? Je l'ai tenté comme ça. Ils le savent et de toute façon, c'est hyper ouvert avec eux. On en rigole justement, donc il n'y a pas de souci. Ils le prendront pas mal si je le dis. Ils m'ont dit au départ, non, on vient de recruter, donc on n'a pas la possibilité d'embaucher quelqu'un. Donc j'ai dit, ok, tant pis. Et le soir, donc ça c'était le matin, le soir il me rappelle, il me dit on va quand même se rencontrer demain pour voir. Et derrière j'ai signé un CDI chez eux. Je suis restée, en fait ce qui les a intéressés c'est que comme j'avais ma boîte à côté, comme ils n'avaient pas la possibilité de prendre un temps plein, on a signé un 2 jours semaine et moi ça m'allait hyper bien. J'étais très contente parce que je travaillais pour eux 2 jours par semaine et je développais mon entreprise à côté, mes formations, tout ça. Donc franchement c'était la belle vie, clairement. Et ils étaient très flexibles aussi, c'est-à-dire qu'ils savaient que j'avais ma boîte à côté. Donc, ils étaient contents parce que ça permettait aussi que des fois, j'ai des choses que je faisais avec des clients que je ramenais à l'entreprise en disant « Tiens, on a testé ça avec un client, on pourrait peut-être faire ça, nous aussi, etc. » Et inversement, ce que j'apprenais en entreprise m'aidait à structurer aussi ma boîte, donc c'était top. Donc, ils étaient flexibles puisqu'ils savaient que j'étais à mon compte. Et quand j'avais vraiment la nécessité de déplacer un jour de travail dans la semaine, pour un besoin client, si c'était prévu à l'avance, c'était faisable. Donc franchement, ça a été vraiment génial et c'est une super équipe et j'ai adoré travailler là-bas.
J'imagine. En tout cas, fou le truc de, tu leur donnes une formation,
ouais.
Tu vois que ça, parce qu'ils ne mettent pas en application.
Tu postules. Je suis allée au culot.
Et non, mais c'est génial.
Ouais. J'ai adoré parce que j'y suis allée au culot. C'est la première fois que j'osais faire ça et ça a payé. Et je suis tombée dans une super boîte, donc ça a vraiment été génial. Mmh. Donc je gérais toute la partie stratégie de communication B2B, B2C, puisque l'entreprise avait les deux cibles, donc envers les particuliers et envers les professionnels. Et donc dedans, j'avais la gestion des différents sites internet, des réseaux sociaux, des emailings. Et on a organisé aussi tous les mois des webconférences, donc la partie préparation, animation, enregistrement, publication, etc., des webconférences en replay. Et j'aidais également sur la partie print, donc tout ce qui était... support de communication, on va dire, au sens très large, et dans l'événementiel, quand on avait des salons et tout, j'aidais aussi un petit peu sur cette partie-là. Donc j'avais des rôles hyper polyvalents, c'était vraiment génial, j'ai vraiment adoré. Je restais chez eux 2 ans comme ça. Au bout de 2 ans, on a rediscuté, je suis passée à 3 jours semaine, 2 jours en présentiel et 1 jour en télétravail. Donc ça, c'était super, moi j'ai adoré ce format-là. Mm-hmm. Et donc là, on arrive fin 2019. Je déménage plus loin de la boîte pour rejoindre mon conjoint. Donc ça devenait un petit peu compliqué pour moi de me déplacer, mais j'avais trouvé un système où, en gros, comme j'avais 2 jours de suite, j'allais là-bas, je dormais sur place, donc chez ma famille, et je revenais après, donc je me débrouillais.
Ok.
Puis est arrivé le El Famoso confinement. Donc là, on est passé full télétravail. Donc d'un côté, ça m'a arrangé en termes de gestion, on va dire, pour les déplacements. Moi, j'avais moins de fatigue, d'où la téléportation. Et donc ça s'est super bien passé. On a dû gérer pas mal de choses quand même. Donc je me suis beaucoup impliquée aussi dans l'entreprise parce que contrairement à ce que beaucoup, à ce que certains ont vécu en tout cas, pardon, je vais pas dire beaucoup parce que je vais pas généraliser. Nous, dans cette entreprise-là, le confinement, on n'a jamais autant bossé en fait à ce moment-là.
Ouais.
Donc on avait vachement plus de travail. Donc en fait, c'était pas beaucoup plus cool justement. C'était beaucoup plus intense, mais c'était très bien. Il n'y a pas eu de souci. Et en fait, au fur et à mesure, le chemin commençait à se faire dans ma tête et je commençais à me dire, peut-être que j'ai envie de développer ma boîte, je sais pas trop. J'étais encore un peu dans le flou au tout début, à ce moment-là. Et j'en parlais avec mes proches. Enfin voilà, j'étais pas encore sûre et certaine à ce moment-là.
Et du coup, à ce moment-là, t'avais qu'un client?
Non. Là, j'étais salariée dans cette entreprise. J'étais salariée et j'avais une dizaine de clients à côté.
Okay.
Que je gérais donc en formation, en community management, en stratégie, tout ça.
Ok.
Et en fait, justement, ces clients-là commençaient à prendre de plus en plus de place, dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, dans mon planning. Et ça commençait à être difficile pour moi d'avoir mes 3 jours salariés et seulement 2 jours pour la boîte. Du coup, je travaillais aussi le week-end, beaucoup le soir, et c'était un peu compliqué pour la vie perso. Ça commençait à poser des problèmes, on va dire, aussi par rapport à ça. Et je sentais aussi que l'un et l'autre me bloquaient par rapport à l'autre, que la boîte me bloquait par rapport au salariat, le salariat me bloquait par rapport à la boîte, et j'étais en fait tiraillée à me dire, est-ce que je passe à temps complet dans l'entreprise où je suis salariée et j'arrête ma boîte, ou est-ce que je tente l'aventure entrepreneuriale mais à 100% de mon temps? Donc ça a mis un an à faire son chemin dans ma tête, vraiment, à en parler très régulièrement avec mon conjoint, avec mes proches, même avec certains clients dont j'étais très proche pour leur demander leur avis aussi, tout simplement. Avec mon entreprise aussi, on en a un petit peu parlé.
Ah, c'est cool que t'aies pu en parler aussi.
Ouais, là-dessus, vraiment, ça a été... Enfin, je suis vraiment tombée dans une bonne boîte. Et donc, c'était en... du coup, c'était à l'été. Fin août, j'avais mon entretien individuel de l'année, mon entretien annuel. J'étais avec mon directeur en visio, du coup. Parce qu'on était encore, c'était encore un peu compliqué à ce moment-là. Je lui dis, écoute, voilà, il faut que je te dise quelque chose. J'aimerais bien me remettre à fond dans ma boîte. Et j'étais hyper gênée parce que j'adorais l'entreprise où j'étais. Donc, c'est pas comme d'autres personnes qui ont quitté le salariat parce que ça se passait mal.
Ouais.
Moi, vraiment, ça se passait bien. Donc, j'avais pas de raison de partir, en fait. Donc, c'était très dur de dire, je m'en vais. Enfin, voilà, j'avais pas envie de partir en mode salut. Ça se passait vraiment bien. Et du coup, on en a discuté. Et en fait, il m'a dit, mais tu sais, ça fait longtemps que je sais que tu vas repartir, en fait. Je sais très bien que tu vas pas rester. J'en étais conscient. Je dis, mais même moi, je le savais pas. Il me fait, non, je m'en doutais et je suis très content pour toi et c'est super. Y a pas de souci. Je dis, par contre, moi, je veux partir dans des bonnes conditions. Donc, je veux qu'on ait retrouvé la personne qui va me remplacer. Je veux vous aider à la recruter. Enfin, voilà, je veux pas vous laisser en mode salut, dans un mois, je suis plus là, démerdez-vous, quoi. C'était pas du tout mon objectif, justement, parce que ça se passait bien. Donc, on a mis en place tout ce processus pour pouvoir recruter la personne, définir la fiche de poste, etc. Et eux commençaient à avoir justement un besoin à temps plein. Donc, on a recruté un temps plein à ma place, du coup. Et j'ai quitté l'entreprise. Donc, ça, j'avais fait ma demande fin août, début septembre avec mon responsable. Et je suis partie le 19 janvier qui a suivi.
Ok.
Donc, ça a mis quelques mois. Mais moi, ça m'allait. C'était ok. Il n'y avait pas de souci. Je voulais justement que ça se passe bien. Donc, je préférais partir un peu plus tard. Normalement, idéalement, je voulais partir juste avant les congés de Noël. Pour le côté, c'est plus simple, je pars, c'est un peu les vacances, je me repose et après je rattaque à fond. Mais ça s'est fait comme ça, ça s'est très bien passé quand même. Et après, derrière, depuis, donc, je suis que à mon compte depuis ce moment-là et donc j'accompagne tous mes clients. Et ce qui est drôle, c'est que cette entreprise-là est restée un de mes clients. Et c'est encore un client aujourd'hui pour moi. On travaille toujours ensemble et on est très proches, toujours avec les membres de l'équipe, on échange pour savoir un peu comment on va, ce genre de choses-là. Et je suis vraiment contente d'avoir pu partir en bon terme, mais en très bon terme, et continuer à bosser ensemble. Pour moi, c'est vraiment un super... Enfin, voilà, je trouve que c'est une situation idyllique, clairement. Je suis très chanceuse là-dessus, je suis très contente.
Et du coup, tu fais quoi aujourd'hui pour eux ?
Pour eux, alors au début, donc je fais de la formation pour eux, donc parce qu'ils ont une partie de leur entreprise qui est un centre de formation, et donc je fais de la formation pour des professionnels sur toute la partie digitalisation et réseaux sociaux, sensibilisation à la communication en ligne, et je les accompagne aussi sur des ateliers stratégiques, donc pour des points clés qu'ils ont, où ils ont besoin d'avoir vraiment cet aspect stratégique qu'ils ont pas forcément en interne, qui est un tout petit peu plus axé sur la partie communication. Et moins sur la partie vue globale stratégique. Et comme ils disent, ça leur fait du bien d'avoir quelqu'un qui est extérieur à la boîte et en même temps qui connaît comment elle fonctionne et qui est consciente de ses paramètres, du nombre de salariés, de comment ça se passe, de leur manière de fonctionner, de leur rentabilité, de tout ça. D'avoir en même temps quelqu'un qui connaît, mais qui est extérieur, c'est un gros atout pour eux, justement, pour pouvoir faire le point plus facilement.
Ok. Et donc, du coup, ouais, ta boîte a commencé à être à 100% pour ta boîte il y a 2 ans, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, il y a 2 ans, en gros. Et à ce moment-là, au début, j'avais très peur, parce que je me suis dit, putain, il faut que je pallie à mon manque de salaire, justement. Et j'ai retrouvé le même niveau de vie, on va dire, en termes de revenus, en 2 mois.
Okay,
et
bien.
Je l'ai dépassé en 4 mois. Donc, j'étais très contente. j'étais très contente. Je me suis dit, bon, ça veut dire que c'était le bon choix. Je m'étais mis à une deadline. Je m'étais quand même dit, si jamais je tente à fond 6 mois, si au bout de 6 mois, c'est non, j'arrête. Si c'est bof, bof, je continue encore 6 mois, mais pas plus. Donc, 1 an en tout. Et si c'est OK, bah voilà, je continue. Et je m'étais dit, si vraiment au bout d'1 an, c'est vraiment galère et que je m'en sors pas, etc., et que je sens que j'y arrive pas, bah, je me resalarierais. Moi, je voyais pas ça comme un échec, dans le sens où oui, j'aurais peut-être pas réussi à développer ma boîte, mais pour moi, retourner salarié n'était pas un échec à ce moment-là, en tout cas. Et je trouve que c'est pas un échec et ça arrive à tout le monde d'avoir besoin, soit par envie, soit par nécessité hein, aussi, des fois, de retourner salarié. Et ça, je pense, faut pas trop le stigmatiser quand même, parce que beaucoup de gens sont en mode « Ah, mais si t'es entrepreneur et que tu retournes salarié, c'est catastrophique. » Je trouve que c'est pas le cas. Après, il faut trouver la bonne boîte, ça, on est complètement d'accord, parce qu'il faut comprendre qu'on a
ça,
eu
c'est sûr.
Des autres manières de fonctionner. Donc c'est ça aussi. Oui. Mais avec la bonne entreprise, ça m'aurait pas gêné si ça avait pas marché. Heureusement, bah, ça se passe bien, donc voilà. Et puis donc ça, c'était donc en janvier, et en août, le 31 juillet, j'ai fermé ma micro-entreprise, et le 1er août, j'ai ouvert ma société, du coup.
Ok.
La même année, parce que bah, ça se passait bien, très bien. Et du coup, je me suis dit, il est temps de passer dans la cour des grands. Et j'ai senti que ça avait fait un déclic de mindset aussi, c'est-à-dire que je voyais pas les choses exactement de la même manière que quand j'étais en micro. Et pas pour dire la micro c'est pas bien, pas du tout, je suis restée 7 ans en micro, donc c'était très très bien, il n'y a pas de problème, 7h30 même, je trouve que quand tu passes en société, t'as un petit switch qui se fait quand même un petit peu dans ta tête, qui est intéressant.
Ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, c'est quoi ton statut aujourd'hui ? T'es en EI avec option réelle, ou alors t'es vraiment en société ?
Je suis vraiment en société, je suis techniquement en EURL même.
EURL.
Ouais. Okay. Sur les conseils de mon comptable, je suis passée en EURL. C'était ce qui était le plus adapté à mon statut, à ma situation, etc.
Ok.
Donc j'ai un comptable, du coup. Je fais la TVA, des choses comme ça. Donc toutes les joies de cette partie administrative.
Ouais. Bah après, voilà. Moi, là, du coup, moi, je suis passée en janvier en entreprise individuelle,
oui,
avec option réelle.
Ouais, j'ai une amie qui a fait ça aussi.
La TVA, du coup, ça fait un peu plus d'un an que je l'avais en micro aussi.
Oui, déjà.
Mais ouais, c'est un sacré cap. En fait, c'est pas si compliqué, mais...
Non, mais il faut le faire, quoi.
Ça
ouais.
Change.
Ouais, complètement. Puis tu vois, je comprenais pas avant les gens qui parlaient en hors-taxe. Je disais, ah, mais ils me saoulent à parler hors-taxe.
Ouais.
Et en fait, je les comprends complètement maintenant.
C'est ça.
J'avoue.
Maintenant que tu payes les taxes tous les mois.
C'est ça.
Ok, d'accord, super intéressant. On va parler un petit peu organisation. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les outils que tu utilises pour t'organiser, peut-être les petits mantras ou des systèmes que tu utilises régulièrement, et nous parler un petit peu, bah, du coup, de l'évolution de ton organisation dans ta vie professionnelle ?
Donc clairement, au tout début, comme c'était un peu side project, j'étais déjà bien organisée, hein, je vais pas dire que c'était le bordel, mais c'était plus, voilà, je faisais avec, etc. Et très rapidement, et d'ailleurs notamment quand je suis rentrée dans cette entreprise dont je parlais, j'ai vite fonctionné en bloc temps dans mon agenda, parce que je sentais bien que sinon j'allais pas y arriver. Alors ça fonctionne pas pour tout le monde, on le sait, mais moi j'avoue que c'est une technique qui a bien fonctionné pour moi. Donc dès que j'avais quelque chose à faire, c'était... Alors si c'était un rendez-vous physique, donc par exemple une formation, un rendez-vous client, enfin physique, dire où c'était avec quelqu'un, on va dire, je le notais dans mon agenda et je mettais toujours, j'avais donc cet agenda avec tous les rendez-vous et à côté j'avais l'agenda avec toute la partie plus bloc temps de travail où donc quand je dois travailler sur quelque chose, je me dis ok là je me réserve une heure, je le mets dans mon agenda, de telle heure je travaille sur ça, etc. J'avais des gros problèmes au début parce que j'avais cette tendance, et je crois que je suis pas la seule, à me dire s'il y a des trous dans mon planning, il faut que je mette des trucs dedans.
Ouais.
Sauf que non, c'est pas une bonne idée. Spoiler, c'est pas la bonne idée. Il vaut mieux justement se laisser respirer entre deux tâches et même s'autoriser des pauses. Et j'avais tendance à oublier des pauses et même à oublier par exemple la pause déjeuner. Ça m'arrivait régulièrement.
Okay.
Et je comprenais pas. Des fois, j'arrivais à 13h30 et je me dis ça c'est bizarre, j'ai la dalle. Et en fait, je vois qu'il est 13h30, je me dis ben. C'est normal en fait que t'aies faim. Et en fait, comme j'avais pas prévu la pause dans mon planning, je la prenais un peu plus tard et ça décalait tout et ça m'énervait parce que je suis un peu carrée là-dessus. Donc j'ai appris à me dire, ok, il faut aussi que je mette mes pauses et que je les respecte dans mon planning. Je garde quand même de la flexibilité parce que je trouve ça important. C'est-à-dire, si à un moment je me sens fatiguée ou vraiment je sens que j'ai besoin d'une pause un peu plus longue, je vais me l'autoriser. Mais j'essaye d'avoir des blocs temps qui correspondent à ce que j'estime être pertinent pour être productive et en même temps pour pouvoir me reposer.
Ok.
Et j'ai une technique surtout, c'est que, alors je ne sais pas que ce n'est pas une technique révolutionnaire, hein, mais c'est quelque chose que je fais dès que je planifie quelque chose. Et moi, il faut savoir que comme je donne des cours ou des choses où je travaille avec des centres de formation, par exemple, là, je suis déjà en train de travailler sur mon calendrier jusqu'à juin 2024, actuellement.
Oui, ouais, j'ai connu
donc
ça
c'est,
aussi.
Voilà, c'est très spécifique. c'est vrai que des fois, quand j'en parle avec certains entrepreneurs, ils me font « Mais moi, je ne sais pas ce que je fais dans 2 mois. Toi, tu parles de juin 2024. » Enfin, voilà, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois que je note quelque chose, même si c'est, par exemple, une formation dans un an, je vais noter la formation. Donc, 9h, 17h, machin, ok. Et je vais tout de suite aller me dire, je vais remonter un peu en arrière et faire, là, je vais mettre un temps pour préparer cette formation-là.
Okay.
Et après, je vais mettre un temps pour débriefer cette formation-là. Et je fais pareil quand j'ai un rendez-vous client, notamment les rendez-vous stratégiques. J'ai toujours, même là pour le podcast, j'avais un petit timing avant en mode préparer le podcast et un petit timing après, débriefer le podcast, par exemple. Quand j'ai un rendez-vous stratégique, c'est je pose le rendez-vous avec mon client, s'il est de 14 à 15, j'ai un point avant, alors soit juste avant, soit le matin, ça va dépendre, ou même la veille, hein, ça, voilà, mais je le cale toujours avant en me disant je prends 1 heure pour préparer le rendez-vous et je prends 1 heure pour faire le débrief, le compte-rendu, enfin voilà, ce qu'il y a besoin de faire. Comme c'est déjà calé en amont dans mon planning, ça me permet quand j'arrive sur cette semaine-là et que je viens un petit peu rajouter les tâches que je veux faire dans ma semaine, bah, j'ai déjà mes blocs temps de poser, donc je sais déjà que ceux-là, ils sont incompressibles, je ne vais pas y toucher. Donc, je rajoute que là où il y a de la possibilité de rajouter des choses et ça m'aide à essayer de pas trop me surcharger et à anticiper la charge de travail en amont. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, je fais systématiquement. Les rares fois où j'ai oublié, d'ailleurs, ça m'a mis un peu dans l'embarras parce que comme dans ma tête, c'était déjà calé, je dis « Ah, mais non, en fait, je l'ai pas calé. » Donc, je me retrouvais un petit peu. Je m'en sortais, mais c'était plus compliqué, on va dire. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment le truc que je fais. C'est dès que je cale quelque chose, je cale le temps de préparation et le temps de débrief qui va avec, toujours.
Ok, ah ouais, c'est super malin, effectivement.
Parce que ça me permet d'éviter, parce que notamment quand j'ai des choses qui sont dans longtemps, des fois j'oublie que c'est dans 3-4 semaines, sur le moment j'y pense pas, je me dis bah oui, mais il faudra que tu le prépares. Donc prends du temps, mets-le maintenant, comme ça c'est fait, et en fait ça m'enlève une charge mentale sur il faut que je pense à noter qu'il faut que je le prépare, et ça m'enlève la charge mentale de quand j'arrive sur la semaine en question, dire ah bah de toute façon ça s'est déjà posé, donc de toute façon j'ai plus de place. Enfin, ou voilà. Et quand, à l'inverse, je dois caler d'autres rendez-vous, je vois aussi ce que j'ai déjà mis, donc les rendez-vous fixes, mais aussi les temps de préparation. Et ce qui me permet de me dire, ben non, là, je suis pas disponible pour un rendez-vous à ce moment-là, parce que j'ai déjà un temps de préparation. Alors, soit je décale le temps de préparation si c'est possible, mais si je vois que c'est pas possible, du coup, je me dis, ben non, je ne suis pas disponible, du coup, pour autre chose. C'est des temps que j'essaye de ne pas bouger aussi. ou en tout cas de très peu bouger, on va dire. Je peux les décaler d'une demi-heure, d'une heure ou dans la journée, hein. Ouais. Mais je vais pas les décaler de 3 semaines, par exemple. En général, si je les ai mis à un endroit précis, c'est que je sais que j'ai besoin qu'ils soient là par rapport à la tâche que je me suis mise plus tard.
Ok. Et du coup, j'ai une question qui me vient. C'est assez variable d'un entrepreneur à l'autre. Mais du coup, toi, t'es, enfin, comme tu fonctionnes en bloc temps, en fait, c'est quoi ta limite dans la journée d'heures ? Enfin, en gros, combien d'heures tu bosses dans la journée pour ne pas t'épuiser ?
Je travaille encore là-dessus. C'est-à-dire que ça dépend des jours. Moi, je sais que je suis vraiment efficace 6 heures. Ça, je le sais. Parce que je sens bien qu'au-delà de 6 heures, je commence à avoir du mal. J'ai un chronotype plutôt du soir et donc plutôt de la nuit. Donc c'est vrai que j'ai tendance à être ultra créative le soir. Okay. Donc c'est vrai que si je peux, mais là aussi je vais m'adapter à ma vie perso et au rythme de mon conjoint du coup là-dessus. Mais si je peux, je me mets des temps créatifs plutôt le soir et j'essaye de pas dépasser les 6 heures de travail, enfin les 7 heures de travail par jour en me disant qu'elles sont une heure de battements, de petits trucs, mais j'essaye de pas dépasser ça parce que je sens que au-delà c'est compliqué. Après, en effet, il y a des jours où, et ça, enfin, c'est tout le monde, hein, y a des jours où je suis ultra productive, je me dis, bah, tant que je suis lancée, let's go, on y va, quoi, allons-y. Donc ça m'arrive de faire des journées de 10-11 heures, c'est déjà arrivé. Par contre, en général, je sais aussi que ça, c'est soit des veilles de week-end parce qu'après, je peux me reposer. Soit justement ça va être le lendemain des journées beaucoup plus light ou des journées où j'ai rien à préparer ou à penser, on va dire. Donc ça c'est important, ou alors des tâches vraiment ultra bateau et très qui demandent pas de l'espace mental, on va dire, par rapport à ça. Et à l'inverse, les jours où ça va pas, où je me sens vraiment fatiguée, ou alors les jours où je suis pas en forme, ou alors j'apprends une mauvaise nouvelle, hein, ce qui arrive dans la vie de tout le monde, hein, de toute façon, où j'ai besoin aussi des fois de décaler des choses, etc. Ces jours-là, bah, ça m'arrive de bosser que 2-3 heures. Et encore, 2-3 heures, c'est pas non plus rien. Enfin, on peut faire beaucoup de choses en 2-3 heures, on le sait. Ouais. Et en général, justement, je suis assez productive dans ces heures-là, donc ça va. Parce que justement, j'ai un peu ce côté de me dire, j'ai que ces 2-3 heures-là aujourd'hui parce que je sens que je suis pas en forme pour faire plus. Donc, il faut que je sois performante sur ces 2-3 heures-là. Et comme ça, j'aurai l'esprit plus tranquille après à me dire, OK, j'ai bossé que 3 heures, mais vu tout ce que j'ai fait en 3 heures, franchement, c'est OK. C'est ça. Ce qui m'importe au global, c'est de ne pas prendre de retard au global, on va dire. Mais je peux moduler mes journées et je les module quand j'en ai besoin. Je sais que je m'adapte un peu au rythme de mon conjoint aussi,
ouais,
qui est en 2-8, donc ça change des choses. Potentiellement, par exemple, j'essaie de ne pas travailler un vendredi après-midi sur deux, ou en tout cas, de travailler en mode vraiment, je travaille selon mon flow, mais là, je me mets rien, je travaille tranquillement, etc. J'ai aussi des temps, justement, dans mon planning. Je travaille en bloc temps, mais j'ai aussi des moments où je suis capable de me dire, là, il n'y a rien, mais c'est volontairement qu'il n'y a rien. Et à ce moment-là, je ferai vraiment du pur flow, et c'est tout. Et si j'ai envie de rien faire, bah, je ferai rien. Et si j'ai envie de faire un truc, je le ferai, en fait. Donc, je m'autorise aussi à faire les choses quand je sens que j'ai envie de les faire. Donc, mes blocs temps sont flexibles. Le but, c'est que si j'ai décidé qu'il soit dans cette semaine-là, peu importe le jour et l'heure à laquelle je le fais, il faut qu'il soit fait dans la semaine. C'est tout ce que je me donne comme, on va dire, objectif.
Ok.
Aujourd'hui, je travaille à peu près entre 35 et 40 heures par semaine, sachant que j'aime ça, hein. J'aime travailler 35 heures par semaine, c'est pas...
Ouais, ça te fatigue pas plus que ça sur le long terme ?
Ça me fatigue un peu, je vais pas dire le contraire, mais j'aime ça, donc je suis pas éreintée, c'est ça que je veux dire.
Okay.
Je passe pas mes week-ends à me reposer, je peux aussi sortir, faire plein de trucs le week-end, c'est pas trop, ça va, parce que j'aime ça. Et il y a des personnes qui, même en adorant leur travail, ont besoin de travailler moins, d'autres qui kiffent travailler plus aussi. Hein. Avant, j'étais plutôt dans les 50 heures par semaine et j'ai réduit pour deux raisons. La première, c'est que bah, je tenais pas le coup, déjà. Ouais. Et la deuxième, c'est que mon conjoint n'apprécie pas forcément non plus. Et il avait totalement raison. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant un peu moins d'heures, bah, j'étais plus productive sur les heures où je bossais. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours ou des choses comme ça. Et je pense qu'en effet, il y a un déclic qui fait qu'on peut être beaucoup plus... Enfin, il n'y a pas besoin de travailler 8 heures par jour pour être efficace. Et généralement, si on travaille 8 à 9 heures par jour, on est rarement efficace 8 à 9 heures.
Clairement.
Clairement. Donc là-dessus, voilà. Je respecte à peu près mon... Quand je sens que ça ne va pas, ça ne va pas. J'ai fait des semaines à 10 heures parce que vraiment, ça n'allait pas. Je n'étais pas bien et je n'étais pas capable de travailler comme il fallait. Et à côté de ça, 2-3 semaines plus tard, je vais faire des semaines à 45 heures. Mais... j'en avais envie, c'est-à-dire que je me mets, comment dire, je ne la moyenne, c'est 35, vraiment. 35-40, ouais. On va dire, 38. je m'autorise à faire moins et je m'autorise à faire plus, mais seulement si je sens que c'est nécessaire. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question.
Quand tu dis c'est nécessaire, c'est-à-dire c'est nécessaire par rapport à tes objectifs, à ton business, c'est ça ?
Par rapport à mes objectifs, mon business et en prenant en compte ma santé, toujours.
Ok, d'accord.
Si je sens qu'il y a une semaine où je peux vraiment pas, ben je peux pas. Et j'aime pas ça, mais ça m'est déjà arrivé de décaler des rendez-vous clients parce que j'étais pas capable de faire le rendez-vous. C'est des fois les choses de la vie. Là, tu dis non, là je peux pas. Quand tu te tapes une migraine ophtalmique et que tu peux pas ouvrir les yeux. Et que tu peux pas regarder un écran, tu peux pas faire un rendez-vous de suivi stratégique avec un client. Enfin, c'est une mauvaise expérience pour lui, c'est une mauvaise expérience pour toi. Moi, je me sentirais coupable de proposer ça à un client parce que clairement, ce serait pas qualitatif. Donc, je préfère lui dire, je suis désolée, mais là, on va reporter. Je déteste reporter, mais je préfère que de dire, bon, ben, on le fait quand même et voilà. Par contre, si je sens que c'est que je suis capable de le faire, je le ferai. C'est-à-dire, si j'ai un petit rhume et que c'est pas handicapant et que ça ne gêne pas l'expérience du client. Je le ferai. J'ai un peu tendance, par contre, à, oui, en effet, des fois, même si c'est moins qu'avant, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, peut-être des fois oublier de se reposer un petit peu, ça c'est vrai. Quand c'est pas des trucs lourds, quand c'est des rhumes, des choses comme ça, des fois on sous-estime que ça claque quand même un peu, hein, on a du mal à être autant productif, même si c'est qu'un rhume, on va dire. Mais si je peux le faire, je le ferai, c'est juste, je veux pas que ça entache la qualité, notamment pour le client, c'est surtout ça. Après, quand c'est pas en direct avec le client, quand c'est de la production, le client, il s'en fiche de savoir, entre guillemets, plus ou moins de temps que je mets, puisque je travaille au forfait, je travaille pas au temps horaire, donc c'est moi que ça regarde. Donc si je sens que je peux le faire, mais que je vais mettre une heure au lieu de 30 minutes, bah, je vais le faire, et puis je mettrai une heure au lieu de 30 minutes. Ou alors je me dis non, bah, j'attends d'être bien, et je le ferai en 30 minutes. Quoi. Okay. Je reste assez flexible, même si je travaille en bloc temps.
D'accord, ouais, c'est important, je pense.
Oui, il faut. C'est clair, là.
Ouais, du coup, ça répond totalement à la question, parce que c'est vrai que moi, je rencontre pas mal d'entrepreneurs, enfin, je sais que c'est compliqué même, quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, ou enfin même quand tu te lances direct dans l'entrepreneuriat, on a tellement des impératifs d'horaire, de productivité, que j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneuses qui se sentaient coupables si elles ne bossaient que 5 heures par jour, par exemple, alors que c'était leur rythme. Et du coup, c'est important, je pense, de le dire. Ouais. Tu vois,
Oui. Et puis, c'est important aussi de comprendre, moi, je trouve que, je parlais des chronotypes rapidement, mais on n'est pas tous faits pour bosser de 9 à 18, déjà, ne serait-ce que par nos rythmes respectifs chacun, plus nos vies perso. Je pense, par exemple, à celles et ceux qui ont des enfants et qui doivent aller les chercher à l'école à telle heure, gérer des choses par rapport à ça, etc. Bah, il faut bien faire avec, et si ta journée elle commence à 9h30 parce que tu as dû la déposer à l'école le matin et qu'elle termine à 16h parce qu'après il faut aller la chercher, et ben bah, c'est comme ça, et voilà, il y a des impératifs aussi de vie perso que voilà, on doit faire avec. Donc il y a ça, il y a le rythme de chacun, il y a la productivité de chacun, est-ce que je suis plus productive le matin, le soir, il y a des personnes qui ont besoin d'une grosse pause déj, quitte à faire une journée de 4 heures plus 4 heures, mais avec peut-être 2 heures et demie, 3 heures de pause au milieu, parce qu'ils en ont besoin. Et moi, je sais que j'aime bien bosser en dehors des horaires de bureau. Alors, bien sûr que je suis gironnable sur les horaires de bureau pour mes clients, et c'est logique, parce que c'est là où tout le monde est connecté, on va dire, et disponible. Mais j'adore bosser en dehors des horaires de bureau, parce que je sens que le monde est à l'arrêt, qu'il n'y a personne, et que je peux bosser, que je peux avancer, que je peux... y aller et que j'aurai pas un mail, un appel, un truc qui va me déranger, en fait. Enfin, et déranger, c'est un mot un peu dur, mais qui va m'arrêter dans ma productivité à ce moment-là ou me créer un petit FOMO en mode « Ah, j'ai une notif, faut que j'aille voir. » Là, je sais que dans ces cas-là, je peux tracer justement parce que le monde soit dort encore, soit est déjà en train de regarder un film le soir, quoi.
Ouais, donc toi, c'est plutôt vraiment soir ou tôt le matin, du coup ?
Alors, j'ai un rythme bizarre. Je suis beaucoup, beaucoup du soir pour la créativité et du matin très tôt, même des fois, pour la partie, tout ce qui est tâches administratives, carré, basique, quoi. Mais pas complexe, hein, par contre, pas complexe, pas le matin. Voilà, moi, je suis plutôt comme ça.
Ok. D'accord, ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ton organisation que tu voulais partager ?
J'ai pas de choses spécifiques, mais après dans les outils, justement tu m'avais demandé les outils que j'utilise le plus, donc moi j'ai mon agenda Google Agenda, moi je fonctionne avec Google Agenda parce que Je l'utilise depuis maintenant 14 ans avec les études et tout, donc j'ai tellement l'habitude que voilà, je le maîtrise par cœur. J'ai Notion qui est mon outil où je note tout, je prends toutes mes notes, qui gère mon entreprise, qui me met mes rappels, etc. Outil que je chouchoute depuis 2 ans et demi maintenant.
Ouais.
Et après, bah, pour échanger avec les équipes, et souvent c'est Discord.
Okay.
Parce que j'ai l'habitude et j'apprécie beaucoup Discord. Et c'est d'ailleurs dans Discord, dans la community NG, qu'on a pu échanger la première fois, de mémoire.
Ouais,
c'était ça. C'est un peu les outils que j'ai. Après, j'ai un tracker de temps que j'utilise depuis septembre 2022, du coup, pour tester. J'avais déjà testé avant, j'y arrivais pas trop, j'avais du mal. Enfin, je l'oubliais, je le mettais pas toujours. Enfin, bref. Et maintenant, j'ai trouvé la technique pour l'utiliser et ne pas l'oublier. C'est que dans les paramètres... Donc, moi, j'utilise Toggle, qui est un outil qui est gratuit. Je crois qu'il y a des options payantes, mais en vrai, j'ai jamais fouiné parce que le gratuit me suffisait largement.
J'avoue, je l'utilise aussi. J'ai jamais eu besoin de plus.
Je pense qu'il y a des options très intéressantes, mais moi, je n'en ai pas besoin, en tout cas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai le mini timer. Donc, en fait, il est toujours en petit quelque part sur mon écran, à un endroit qui ne me gêne pas, mais un endroit où je le vois.
Okay.
Pour pouvoir l'activer, désactiver quand j'ai besoin. Donc, il en, vraiment, ça crée un élément vraiment tout petit sur l'écran. C'est le mini timer, je crois qu'ils appellent ça, ou le mini tracker. Je ne sais plus le nom exact. Et en gros, tu as juste le play pause et tu rentres ce que tu es en train de faire et c'est tout.
Donc, d'accord.
Ça, c'est pas mal.
J'ai essayé ça.
Deuxième chose que je fais, c'est que j'ai le... Et en plus, tu peux cocher le fait qu'il soit toujours par-dessus tes fenêtres sur ton ordi pour qu'il ne soit pas caché derrière quelque chose. Moi, il est toujours par-dessus. Comme ça, je le vois tout le temps. Là, je le vois. Il est sur mon écran. Deuxième chose que je fais, c'est que j'ai activé le reminder. Donc, en fait, tu peux dire à Toggle, de telle heure à telle heure, si je suis en train de faire des choses sur mon écran, donc ma souris bouge, je fais des trucs, et que je n'ai pas mis en route mon timer, tu me mets un rappel en mode, au fait, là, tu es en train de faire des trucs, est-ce que tu veux enregistrer ce temps-là ? Donc, du coup, en général, je me dis, ah oui, c'est vrai, hop, je clique et j'enregistre.
D'accord.
Troisième chose que je fais, c'est que comme j'ai des blocs temps, et ça c'est un gros avantage, c'est que quand j'oublie de mettre mon timer, c'est très facile pour moi d'aller après sur le site et de rajouter le temps que j'ai passé sur telle ou telle tâche. Alors, sauf les micro-tâches bien sûr, mais pour les grandes tâches que j'avais, je me fie à mon agenda. Mmh. Et sur Toggle, tu peux associer ton nom Google Agenda. Ce qui fait que tu vois ton Google Agenda dedans. Et donc, moi, j'ai juste à copier-coller dedans, notamment pour tout ce qui est rendez-vous, formation, trajet, etc. C'est hyper facile pour moi, du coup, parce que comme je l'ai déjà anticipé, bah, c'est déjà dedans. Et comme je disais, il n'y a que les micro-tâches que, voilà, des fois, j'en oublie quelques-unes par semaine, mais souvent, ce n'est pas des trucs importants. Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas des grosses sessions de travail, ce n'est pas des trucs de 3 heures que je ne sais plus ce que j'ai fait pendant 3 heures. C'est plus des fois, genre, ah là, les 15 dernières minutes, je ne suis plus trop sûre de ce que j'ai fait. Bon, bah, tant pis, là, je ne mets rien, mais ce n'est pas très grave, quoi. Donc, c'est les trois manières dont j'utilise Toggle. La première, c'est le mini tracker. La deuxième, c'est le fait d'avoir le reminder. Et en plus, on peut choisir les horaires, donc il ne va pas m'embêter en dehors des horaires.
Ouais.
Et la dernière, c'est le fait d'avoir couplé mon agenda. Et comme ça, je vois et je peux reporter comme j'ai mes blocs temps.
D'accord. Moi, j'utilise aussi l'extension Chrome.
Oui.
Du coup, ouais, je peux activer directement. Comme je suis tout le temps sur mon navigateur.
Ouais. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas mis en place et je pense qu'il faudrait que je teste. Je l'ai pas testé encore,
pratique.
Tu vois. J'ai pas. Ouais. Et après, dernier outil que j'utilise que j'aime beaucoup, c'est Forest. Alors, il a une version payante, etc. Moi, je m'en fiche. Je l'utilise en gratuit, pareil, qui est en fait un petit outil où, en gros, on décide d'un temps sur lequel on va travailler, et pendant ce temps-là, on peut. Ça fait grandir un petit arbre, donc c'est un peu marrant. Il y a un petit côté gamification. Et en plus, on peut choisir de. Alors, quand on a l'extension sur Chrome, par exemple, on peut choisir de bloquer certains sites. Par moi, typiquement, il y a des sites que je vais bloquer en mode non, je vais pas là-dessus. Si je suis en train de bosser sur ça, j'ai besoin que de ce site-là et basta.
Ok, ouais, donc du coup, tu l'utilises à la fois sur ton téléphone et sur l'ordi ou alors juste sur l'ordi ?
Que l'ordi, parce qu'en fait, en général, quand je fais des tâches comme ça, en fait, Forest, j'utilise pas tout le temps. Forest, c'est quand je me dis, tiens, là, vraiment, je veux me bloquer 30 minutes pour faire ça. Et là, je me mets un timer de 30 minutes sur Forest et c'est parti.
Ok.
Donc,
ouais,
c'est
donc ça ressemble un petit peu à la méthode Pomodoro, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Je m'en sers un peu en méthode Pomodoro. C'est un peu ça.
Ok.
Mais avec ma durée, on va dire.
Oui, ouais. Bon, sachant qu'en Pomodoro, pareil, tu peux moduler
Bien sûr. Parce que moi, j'avoue que Pomodoro, j'aime bien l'idée, mais au début, j'y arrivais pas parce que 20 minutes, pour moi, c'est pas du tout suffisant.
Ouais.
Mais par contre, j'ai trouvé des vidéos YouTube que j'aime bien mettre pour avoir un son, pour avoir une musique, un fond sonore, des vidéos Lofi, qui sont justement des vidéos Pomodoro, avec des sessions de 50 minutes et 10 minutes de pause. Et moi, c'est beaucoup plus mon rythme, donc je préfère.
Ok.
Et d'ailleurs, pour les Potterheads, il y en a des versions spéciales Harry Potter, et c'est trop bien.
Avec les musiques des films ou avec l'ambiance
Avec l'ambiance des salles communes de chaque maison, et tu as aussi des ambiances du style Poudlard Express, salle de botanique, grande salle, bibliothèque, etc. Et personnellement, j'aime beaucoup.
Ah ouais, ça doit être sympa.
Ouais. Et t'as un petit peu, bah t'as la petite musique, mais très très basse, donc c'est assez sympa. Si tu aimes bien l'univers.
Mm. Bah écoute, on mettra un lien dans, ouais. dans la description de l'épisode.
J'ai les liens, je te les donnerai.
Tu me les enverras. Ok, donc du coup, on a parlé organisation, on va parler mindset, état d'esprit, puisque ça aussi, c'est très important dans notre vie d'entrepreneuse. Donc pareil, est-ce que tu as des outils, des petits mantras, des ressources, livres, podcasts, pour garder un bon état d'esprit? Et pareil, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de cette facette-là dans ta vie d'entrepreneuse?
Ouais. Bah, comme je disais, il y a eu une grosse évolution à partir du moment où je me suis mis à complètement en freelance, parce que je me suis dit, je ne peux pas continuer comme je continuais à faire ça à côté. Enfin, voilà, c'est devenu mon métier principal, c'est devenu la seule chose sur laquelle je travaille. Mm-hmm. Donc, il faut que je me mette des barrières dans un sens comme dans l'autre, que le pro n'empiète pas sur le perso et inversement aussi. Parce que le problème que j'ai eu au tout début où j'étais, où je suis passée en plein temps freelance, c'est qu'il y avait ce côté où « Ah bah t'es chez toi, je peux passer te voir. » Oui, mais non, je bosse en fait. Donc c'est très difficile, mais savoir mettre des barrières aussi. Et en même temps, pareil, flexibilité, savoir dire « Oui, en effet, là tu peux passer demain de telle heure à telle heure, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir de telle heure, moi, il faut que je bosse. » Ou avant, enfin voilà, pas avant telle heure. Enfin, bien sûr, il faut rester flexible et pas dire non tout le temps, mais... quand on voit qu'on ne peut pas, bah dire bah non, là, il faut que je bosse et si tu veux passer, c'est plus tard ou c'est un autre jour, par exemple. Donc, j'ai dû mettre des barrières des deux côtés. Et pareil, pour ne pas bosser jusqu'à pas d'heure, ne pas profiter de ma vie perso ou des choses comme ça. Donc, ça aussi, ça a été important pour moi de bien le mettre en place. Ça a été long, ça a été petit à petit.
Ouais, et comment tu as fait alors? Tu as des petits trucs qui te permettent d'arrêter de bosser?
J'ai un conjoint qui va me dire justement qu'est-ce que tu fais là, t'as fini de travailler là, pourquoi t'es sur LinkedIn, enfin voilà. Et alors au départ c'était facile parce qu'il connaissait pas trop les plateformes sur lesquelles je bossais, donc quand j'étais sur Instagram je pouvais dire non mais c'est mon Insta perso, t'inquiète, c'est bon. Maintenant il sait, il reconnaît, il me dit non mais là t'es sur LinkedIn c'est un réseau pro, là on est en dehors du boulot, t'as pas à être dessus. Je suis oui, c'est vrai. Donc déjà ça m'a beaucoup aidé parce qu'il m'a aussi beaucoup fait réaliser par rapport à ça, clairement. Ouais. Et en fait j'ai ce côté où j'ai deux ordinateurs, j'ai un ordi fixe et un ordi portable. L'ordi portable ne sert qu'au pro, mais vraiment que à ça. C'est l'ordi professionnel. Évidemment, ça m'arrive d'ouvrir un ou deux trucs de super saut de temps en temps, mais c'est vraiment son utilisation à 99,9%, c'est du pro. Sur l'ordi perso, c'est plus compliqué, mais ce qui m'aide, en fait, c'est que j'ai deux comptes Discord. J'ai un compte professionnel et un compte personnel. Et en fait, quand je passe en mode... c'est fini le boulot, je switch de compte Discord et je peux être en mode, si je suis encore sur l'ordi, bah c'est pour jouer ou c'est pour faire autre chose ou faire des recherches, ma petite perso. Enfin voilà, c'est pas pour être connecté au Discord pro sur mon ordi en dehors des horaires de boulot. Donc ça, c'est pas un tips ouf, mais c'est un tips qui m'aide pas mal à me dire, j'ai pas les notifs pro. Je suis en train de réfléchir à avoir un deuxième téléphone, un téléphone pro pour séparer les deux. Pareil à la demande de mon conjoint et à la mienne aussi, parce que je pense que des fois ça m'aiderait aussi, parce que le problème d'avoir un seul téléphone, c'est que quand toi t'as envie d'aller checker du pro, c'est bien, mais quand t'as pas envie et que le pro vient à toi, c'est fatigant. Et pouvoir l'éteindre le week-end, pouvoir l'éteindre en vacances, pouvoir mettre un message de répondeur par exemple les jours où je suis en formation, pour expliquer, ben voilà, de toute façon là je pourrais pas vous répondre avant demain ou après-demain parce que je suis en formation toute la journée. Donc voilà. J'ai aussi des répondeurs de temps en temps quand il y a besoin sur mes mails aussi, pour faire patienter. Et alors pour les mails, moi j'ai une technique très simple, c'est que sur Gmail, on peut renvoyer un mail à une autre heure. Donc par exemple, je reçois un mail là maintenant. C'est un sujet que je ne pourrais pas traiter avant demain. Je le renvoie à demain. C'est-à-dire qu'en gros, il va disparaître de ma boîte mail, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. En gros, il disparaît de la boîte mail, vraiment.
Ok.
Et il revient demain, par exemple, si je dis demain à 8h, il va arriver dans ma boîte mail comme si c'était un nouveau mail demain à 8h.
Ah, ok.
Et ça, c'est vraiment pratique parce que quand je vois des tâches, parce que moi, j'ai un syndrome de l'inbox zéro. C'est-à-dire que si j'ai pas une inbox zéro, je suis pas bien.
Ok.
Quand j'ai ne serait-ce que 6 mails non lus, ça me stresse. Donc voilà, j'ai ce problème-là. Donc quand je vois que j'ai des mails non lus et que je sais que je vais pas les traiter aujourd'hui ou pas ce matin, ou enfin voilà, je les renvoie. En fait, c'est une option qui s'appelle, je sais plus le nom exact, mais en gros, c'est mettre en attente. Voilà, c'est ça.
Ok.
Mettre en attente. Et quand tu coches ton mail, tu mets mettre en attente, tu choisis le jour et l'heure à laquelle il va revenir. Et quand je suis en vacances et que des fois je check mes mails pendant les vacances juste pour les urgences, en mode vérifier que tout est ok, tu vois, ou les factures aussi des fois, si c'est pas urgent et si c'est une question, etc., je mets en attente jusqu'à mon retour de vacances. Donc j'ai pas des mails non lus dès que j'ouvre ma boîte mail en revenant. J'ai le temps de traiter le fond et après le reste arrive tranquillement. Donc c'est un peu ce côté gestion du temps, c'est-à-dire que je fais que le mail arrive au moment où moi je sais que je vais le traiter.
Ok, enfin, ouais. C'est super malin.
Ouais, ça c'est pratique, je trouve.
Je t'avoue, je connaissais pas cette fonctionnalité. Quand tu en as parlé, en fait, je pensais que tu parlais de la fonctionnalité pour
programmer
les envois. Tu vois, ouais. Genre t'es en train d'envoyer un mail à 11h du soir et t'as pas trop envie que la personne sache.
Ça, je le fais aussi. Hein. Ça, je le fais aussi, clairement.
Tu programmes le lendemain à 9h.
Ouais, comme ça, voilà. Au moins, Ça, je le fais aussi. Mais mes clients savent très bien que... Enfin, ceux que je connais très bien savent très bien quand ils reçoivent un mail à 9h pile. C'est que je l'ai fait la veille au soir et que je l'ai programmé pour 9h. Mais en effet, j'utilise la programmation et j'utilise même la programmation à l'intérieur même d'une journée, des fois. Mm-hmm. Parce que des fois, par exemple, je suis pas dispo, je suis en formation. J'ai une demande... J'ai le temps, parce que c'est la pause, par exemple, je dis tiens, j'ai envie de traiter ce mail, comme ça c'est fait, je le traite et je le programme pour 17h30, parce que je me dis, de toute façon je suis en formation, donc la personne n'aurait pas eu la réponse avant cette heure-là, donc je décale le mail, en fait. Donc la programmation, je m'en sers beaucoup aussi hein, sur Google Agenda, sur Gmail, pardon. Mm-hmm. Et même, pareil, des fois, quand ça m'arrive de traiter un mail le week-end, j'essaie de pas le faire, mais des fois, j'ai envie, comme je disais, je suis flexible, des fois j'ai envie de bosser. Et j'ai la possibilité, parce que mon conjoint occupait autre chose et que j'ai rien d'autre à faire, entre guillemets. Je me dis, non, mais là, j'ai envie de bosser. Donc, je bosse. Et si je traite des mails le week-end, programmation pour le lundi matin. Comme ça, d'un côté, moi, j'ai la charge mentale en moins de me dire, c'est bon, c'est traité. J'aurais pas à le faire lundi matin. Et là, j'avais envie, j'avais la place, je le fais. Et en même temps, de toute façon, le mail va être, voilà, il partira au moment voulu, en temps voulu, etc. Donc, oui, la programmation aussi. Mais mettre en attente, c'est pas mal aussi.
Ouais, j'essaierai du coup.
Je trouve que c'est très bien quand justement tu sais que t'as un mail que tu vas pas... Oui. Par exemple, là tu vois, j'ai une cliente, elle m'a envoyé un mail pour un rendez-vous qui est dans 2 semaines. Je l'ai mis en attente et je le recevrai quelques jours avant le rendez-vous pour traiter son mail à ce moment-là. Et en attendant, il sert à rien dans ma boîte mail en fait.
Non, mais t'as tout à fait raison, ça fait une petite charge mentale en moins parce que tu sais que c'est... Enfin, ouais, parce que c'est les trucs un peu bâtards où tu veux le traiter, mais tu veux pas le traiter en avance, mais c'est en même temps, ça reste dans la boîte mail, et à chaque fois que tu l'ouvres, tu le vois,
exactement.
Tu te rappelles. Donc, ouais,
c'est vraiment malin. Ce côté où, pour qu'il soit plus visible dans ma boîte mail, mais je sais qu'il va revenir au moment où moi, j'aurai envie, besoin et la possibilité de le traiter.
Super. Bah, écoute, j'espère qu'on aura fait découvrir cette fonctionnalité à plein de personnes.
Avec plaisir. Et puis, bah, après, pour justement le côté inbox zéro, alors je vais pas tout détailler parce que c'est vraiment un truc, enfin c'est compliqué à tout expliquer ce que je mets en place, sûr. Mais j'ai très peu de mails dans ma boîte de réception parce que j'ai beaucoup de dossiers et dès qu'un mail est fini, il retourne dans son dossier. Je les dégage de ma boîte de réception. Ceux qui sont dans ma boîte de réception en non lu, c'est que je vais les traiter. Donc il y a encore la petite notif, ils sont pas ouverts. Et si je l'ouvre et que je l'ai lu et que je le traite pas là, je le remets en non lu parce que je sais que je vais le traiter par la suite. Et ceux qui sont dans ma boîte de réception en lu, c'est que c'est des tâches de fond sur lesquelles je dois travailler, mais plus tard, et c'est juste pour que je les ai sous le coude plus facilement, pour les retrouver plus facilement. Mais sinon, tous les mails sont après soit supprimés. Alors déjà, ne pas oser supprimer les mails, au début j'avais vraiment du mal, maintenant je ne me gêne plus du tout. Alors bien sûr, pas tous les mails, hein. Mais par exemple, je sais pas, je reçois une confirmation. Tiens, aujourd'hui on a rendez-vous, c'est dans le Google Agenda, je reçois la confirmation comme quoi on a bien notre rendez-vous. Je fais OK, je clique sur oui et je supprime le mail. Je n'ai aucun intérêt de garder ce mail-là dans ma boîte mail. Donc, ça dégage. Ça fait du CO2 en moins, ça fait de la charge en moins. Et à côté de ça, du coup, comme je les range tous, j'ai très souvent une inbox à zéro. Et mon but, c'est que tous les vendredis soirs, je n'ai plus aucun mail dans ma boîte de réception. Soit ils sont triés, soit ils sont supprimés, soit ils sont renvoyés à lundi, parce que je les traiterai pas avant lundi.
Ok, c'est génial. Putain, moi, je sais que j'adore avoir la inbox zéro.
Ah, c'est tellement jouissif.
L'avoir une ou deux semaines, tu vois, après. Mm.
Moi, c'est toutes les semaines, voire des fois, j'arrive à le faire presque tous les jours de la semaine. C'est rare tous les jours de la semaine, mais toutes les semaines, c'est sûr et certain que le vendredi, mon inbox, elle est à zéro.
Génial.
Ça, c'est agréable.
Bah oui, oui. Donc, du coup, ça fait partie de... pour garder un bon état d'esprit, inbox ouais. Zéro.
C'est ça. La base. Et par exemple, quand je renvoie un mail au lundi, si je sais que j'ai un rendez-vous, je sais pas, le lundi de 9 à 10, mon mail, je vais pas le renvoyer pour 9h ou 8h, je vais le renvoyer pour 10h30 ou 11h quand je sais que j'aurai terminé mon rendez-vous, j'aurai commencé à ouvrir mes mails, machin, etc. Je le renvoie à ce moment-là. Comme ça, je suis tranquille. Je suis pas à me dire, ah oui, c'est vrai. Enfin, j'ai toujours ce côté où je le mets au moment où je sais que je vais le traiter.
Ok. Ouais, donc beaucoup d'organisation, beaucoup d'anticipation.
Ouais. En fait, plus j'anticipe, plus ça me libère et plus j'ai pas à le faire par la suite. Donc,
ok.
Voilà.
Ok. Est-ce que t'as d'autres petites choses, des ressources, des choses que tu te dis
Bah, c'est vrai que dans Notion, j'ai Notion sur mon téléphone aussi et j'ai un widget où je peux mettre en avant les pages en favoris sur mon téléphone, donc avec un accès très rapide depuis le téléphone, donc c'est super pratique. J'ai ma pancine dedans, c'est l'endroit où je mets tout ce qui me passe par la tête. Donc j'ai un raccourci sur mon téléphone, donc grâce à un widget de Notion, où je clique dessus, direct ça me l'ouvre et je peux tout écrire en vrac. Et comme ça, quand j'ai le temps, je reviens dessus et je repose les choses proprement, etc. Donc ça, c'est un truc que je fais beaucoup. Et j'avais une technique, alors qui ne fonctionne plus aujourd'hui, mais je vais l'expliquer parce que je la trouvais intéressante dans le fond. Enfin, elle fonctionne plus. Si, elle fonctionne toujours, mais plus avec l'objet avec lequel je le faisais à l'époque. En fait, j'avais un système, c'est que j'avais une bague et à chaque fois que j'avais une idée en pleine nuit, ou un moment où je ne pouvais pas noter l'idée, je prenais la bague, je la changeais de doigt. Et je savais que ça allait me gêner le lendemain matin en me réveillant. Et en fait, je changeais de doigt et je comptais sur mes doigts. Alors, je le montre à l'écran pour toi, mais enfin, voilà. Et par exemple, je me disais, je ne sais pas, podcast sur le chronotype. Je faisais chronotype, 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 chronotype 3 fois. Je changeais ma bague de doigt, je me couchais. Et quand je me réveillais le lendemain, je me souvenais que ma bague me gênait. Je me dis, ah oui, elle me gêne parce que j'avais une idée de côté. Et c'était chronotype parce que je l'ai répété 3 fois, donc c'est resté en fait. C'était ma technique.
C'est et génial. Alors,
l'idée en fait, c'est de trouver un objet qui fait que quand tu le bouges, ça te gêne en fait. Enfin, ça te gêne pas, ça t'empêche pas de dormir. Mais ça te gêne, par exemple, alors moi ma grand-mère, en fait c'est ma grand-mère qui m'a appris cette technique, mais alors elle avait une technique radicale. Quand elle pensait à un truc le soir, elle prenait son oreiller et le mettait à ses pieds. J'ai dit, mais moi, je ne peux pas dormir sans oreiller. Donc, je ne peux pas faire cette technique. C'est ça. Donc, du coup, j'ai trouvé la manière de le faire. J'ai une amie, elle change son bracelet de main de côté, en fait, tout simplement. Parce que normalement, il est de ce côté-là. Donc, ça lui fait bizarre qu'il soit là. Donc, ça veut dire, ah oui, j'avais un truc en tête, en fait. C'est trouver la technique qui fait que tu sais que ça va te gêner un petit peu, mais tu peux continuer ta journée, tu vois. Par exemple, tu es en train de conduire, tu as une idée, tu ne peux pas écrire sur ton téléphone. Tu fais ça. Comme ça, tu sais que quand tu sortiras de la voiture, tu pourras le noter, par exemple. Okay. C'est ce côté, qu'est-ce qui peut te gêner sans trop te gêner, mais pour te rappeler que tu avais une idée de côté. Voilà, c'était ma technique.
Ah, c'est pas mal. Et du coup, tu le fais plus aujourd'hui ?
Alors si, mais plus avec cet outil-là, parce que je ne peux plus bouger cette bague-là de doigt maintenant, parce que c'est une nouvelle bague, et maintenant c'est une bague de fiançailles, donc je ne la change plus le doigt.
D'accord.
Mais je le fais avec, je le fais généralement, sinon, alors ça paraît bête, mais avec mes boucles d'oreilles, en fait, tout simplement. Je change ma boucle d'oreille comme j'ai plusieurs piercings, je change ma boucle d'oreille et du coup je sais que ça me gêne un peu mais pas trop et comme ça je m'en souviens. C'est des trucs, voilà, il y en a, c'est des bracelets. Après ça peut être plein de choses, ça peut être la montre, ça peut être, c'est trouver un truc qui est facile d'accès et qui, ça peut être aussi, il y en a, ils relèvent leur col de chemise par exemple.
Ah ouais, moi j'essaye de réfléchir, voilà. Parce que moi je porte pas de bijoux.
Ah bah oui.
Déjà
c'est trouver mort. Par exemple, tu vois là t'as un switch, tu prends tes deux trucs, tu fais un nœud avec.
Ouais, peut-être.
Que ça te gêne pas, tu vois, ça te. Voilà. Mais tu fais un tout petit nœud et tu te dis pourquoi j'ai fait un nœud ? Ah oui, parce que j'avais une idée. Tu vois, c'est trouver le truc qui te fait que, à ce moment-là. Et moi, ça m'arrive des fois, là, j'ai un poncho, des fois, je fais des tresses avec les trucs. Je me dis, c'est parce que j'ai une idée, je fais une tresse, je la laisse de côté. Et quand j'ai fini, hop, je la détresse et je la note, en fait.
Ok, super, c'est intéressant.
Trouver le petit truc qui fait que ça va te gêner sans te gêner, mais te rappeler que t'as pensé à quelque chose, en fait. Voilà.
Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, enfin, si je fais une analyse psychologique de comptoir,
oui.
En fait, toi, ce qui te permet de garder un bon état d'esprit, enfin, en gros, ce qui peut te pourrir ton état d'esprit, c'est vraiment la charge mentale, en fait. C'est
ouais.
le fait de savoir que t'as des trucs dans la tête et que tu les as notés nulle part et
ouais,
qu'ils
ouais.
sont pas traités.
C'est ça. En fait, moi, c'est ce que je dis même aux gens que je forme ou aux gens que j'accompagne. Quand tu as une idée en tête et si tu l'écris pas, il y a deux cas de figure, en général, qui vont se passer. Soit tu vas faire que d'y penser en mode « il faut surtout pas que je l'oublie » et du coup tu vas pas être concentré sur ce que t'es en train de faire. Et en fait, au bout d'un
ouais.
moment, c'est bah, « arrête et fais le truc que t'as en tête » parce que voilà. Soit en fait tu vas te dire « faut pas que je l'oublie » et tu vas immédiatement l'oublier et tu vas t'en vouloir en disant « j'avais dit qu'il faut pas que j'oublie un truc mais je sais plus quel truc c'est ». Et souvent c'est l'un ou l'autre. C'est rarement, enfin voilà, c'est souvent ces deux cas de figure-là qui arrivent et dont on me parle le plus. Donc je lui dis, bah, fais en sorte de trouver un moyen de ne pas zapper les choses. Donc si tu peux, tu te mets un rappel, tu notes les choses de côté. Si tu ne peux pas, tu trouves un objet, quelque chose qui te fera penser au fait que tu avais une idée de côté. Moi, ça m'arrivait beaucoup, même à titre perso, quand je faisais des courses et que je n'avais pas de liste, des fois. Ou que ma liste était, par exemple, on m'appelle, on me dit, tiens, il faut prendre ça, ça et ça. Ok. Et dans ma tête, j'avais juste à retenir, il manque trois choses. C'est tout. Je ne retenais pas quoi, je retenais trois choses. Et le fait de savoir qu'il y en avait trois... je retrouvais rapidement à quoi correspondaient les trois, en fait. J'avais pas besoin de retenir, il manque si, ça et ça. Je retenais trois, et le si, ça et ça revenait parce que j'avais juste retenu une chose qui regroupait les trois. Je sais pas si c'est très clair, mais c'était ma technique.
Si, si. Mais en fait, ouais, ça fait partie de toutes les techniques de mémorisation qui existent. Il y a pas longtemps,
ouais.
J'ai regardé sur Netflix là, une petite série documentaire, ça s'appelle Le cerveau en bref, et justement, il parlait de la mémoire et des techniques de mémorisation d'une championne, justement, de mémorisation, et c'est incroyable. Je crois qu'elle la technique, le palais mental.
Oui, le palais mental, bah, c'était la technique utilisée Sherlock Holmes.
Voilà.
Ouais.
Donc voilà, en fait, chaque chiffre, elle l'associait à, pareil,
un élément,
après, elle imaginait
ouais.
un chemin qu'elle faisait dans sa
c'est
ville,
ça.
Enfin bref, c'était incroyable. Mais du
c'est
coup, ça fait
c'est hyper impressionnant, le palais mental, moi, j'y suis clairement pas, je sais pas si j'y serai un jour, je sais pas si j'en ai besoin, mais c'est hyper impressionnant, ces techniques-là, en effet.
Bah déjà, tu utilises des techniques, je pense que pas tant de monde que ça utilise.
C'est possible.
Je pense.
En fait, comme j'ai vraiment la peur d'oublier les choses, par exemple, je sais pas, sortir les poubelles, j'ai un rappel dans mon agenda perso, en mode bah, tel jour sortir poubelle jaune, quoi. C'est pas très glamour, mais bah, moi je suis sûre de pas l'oublier.
Okay.
Et je suis sûre de pas me dire, ah oh, merde, j'ai oublié, du coup faut que j'attende un mois avant de pouvoir sortir ma poubelle. Ça paraît bête, mais j'applique tout ça en fait au pro comme au perso. Et j'essaye d'avoir ces petites techniques de qu'est-ce qui fait que je vais retenir l'info sans avoir à penser que à l'info.
Oui.
Mais
ouais.
plutôt à ce qui m'a fait penser que j'avais une info.
Ouais, il n'y a pas longtemps, là aussi, pareil, j'avais vu une technique comme ça qui était de, d'associer un événement que tu sais qui va se passer. Par exemple, exemple très concret, je pense à quelque chose, je suis en train de faire les courses, et je me dis, bon, quand j'ouvrirai le portail, et là, je vois mon portail s'ouvrir dans ma tête, je repenserai à telle chose,
oui.
parce que j'ai besoin d'y penser en rentrant à la maison.
Ouais. Ça, je pense que c'est assez proche de l'idée que je fais, tu vois, avec l'objet qui bouge. Mais en gros, c'est ça. Et je pense qu'en effet, en fonction de comment tu es à l'aise, ça peut être vraiment bien de te dire, tu sais que de toute façon, ça va arriver. Donc, tu le penses, tu le visualises dans ta tête, parce que tu connais en plus ton portail qui s'ouvre, tu le vois tout le temps, donc tu le connais.
Mmh.
Et tu associes quelque chose en disant, à ce moment-là, il faudra que j'ai ce déclic-là, en fait.
Mmh. Tout à fait.
Ouais. Une bonne technique aussi, ça.
Ouais. Enfin, bon, je l'utilise pas... très souvent, mais
les fois
où j'ai utilisé, ça fonctionne assez bien. Comment tu fais quand tu manques de... Enfin, pendant les moments où tu manques de motivation pour bosser sur ton entreprise, ou que tu manques d'estime de toi, que tu te dévalorises, comment tu fais pour retrouver la pêche?
Ouais. Alors, déjà, c'est un énorme travail de long terme puisque j'ai de la chance, c'est qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, ça m'arrive de moins en moins déjà. J'ai de la chance parce que je travaille sur mon pourquoi, je sais pourquoi je fais mon taf. J'ai une grosse volonté de délivrer de la qualité. Donc, même quand j'ai la flemme, je suis en mode, bah oui, mais si tu fais pas ça, ça sera pas la qualité que tu veux que ce soit. Donc bouge-toi parce que sinon tu vas t'en vouloir, ton client va pas être content et tu pourras juste te taper sur les doigts toute seule. Donc ça c'est un truc déjà où je me dis quand je sais ce que je veux délivrer, ça m'aide à me dire de toute façon il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour délivrer puisque j'ai prévu dans ce sens-là. Pour la partie, on va dire, motivation, pareil, j'avoue que j'en ai rarement des manques de motivation. J'en ai pour d'autres choses, hein, clairement. Hein. Faut pas s'inquiéter. Le sport, notamment, des choses comme ça. J'ai du manque de motivation pour pas mal de choses. Mais pour le boulot, globalement, ça va. C'est rare que... C'est plus des moments de fatigue que je vais avoir et qui font que je suis moins motivée, mais c'est pas de la motivation pure et dure. Là-dessus, c'est vrai que... Alors, je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps, je sais pas si c'est parce que je kiffe quasiment tous les jours ce que je fais, je sais pas si ça vient de là, mais j'ai rarement des baisses de motivation, on va dire. Bien sûr que ça m'arrive et que des fois j'ai. Alors, soit parce que la tâche en elle-même me parle pas, par exemple, je sais pas, la compta, oui, je suis jamais ultra hype de faire ma compta, mais j'essaie de mettre en place soit des petites gamifications, soit des petites choses qui me font dire, bah, quand je l'aurais fait, au moins, c'est fait, je peux passer à autre chose. Ou alors, bah, j'ai une petite récompense ou quelque chose qui fait que ça me, voilà, ça me procurera du plaisir juste après. Donc, c'est cool.
Okay.
J'essaie aussi de placer les tâches qui me motivent le moins en premier. C'est un peu la technique de Kill the Frog. Mm. Faire d'abord ce que tu n'aimes pas pour après faire ce que tu aimes bien. En mode, bah là, c'est que j'aime pas ça. Mais bon, quand j'aurai fini, je pourrai passer à ce qui me plaît. Et après sur la partie manque d'estime de soi, etc., bah évidemment ça arrive à tout le monde, syndrome de l'imposteur, etc. Déjà il y a une chose, c'est que j'ai une vision extrêmement saine de la concurrence, et pareil ça je l'ai développé au fur et à mesure, je veux dire c'était pas du tout le cas quand j'ai commencé, hein. Je me comparais énormément, je me dévalorisais énormément, etc. Aujourd'hui j'ai une vision assez saine de la concurrence, c'est-à-dire que pour moi les concurrents, donc soit ce sont des personnes que j'estime et en général je vais plutôt être contente pour eux et je vais potentiellement même travailler avec eux, leur envoyer des clients ou des prospects et inversement, enfin voilà, créer un lien en fait, un partenariat avec ces personnes-là. Okay. Parce que en fait je fonctionne dans l'idée que de toute façon, même si j'étais la meilleure du monde, ce qui n'est pas le cas, hein, mais même si c'était le cas, je ne pourrais de toute façon pas accompagner la Terre entière. Ce ne serait pas possible.
Certes.
Donc, quitte à avoir des concurrents qui bossent bien, donc pour les personnes que j'estime, que je trouve que leur travail est pertinent, qu'il est intéressant, qu'il est en accord avec mes valeurs, etc., et ben quand je ne peux pas accompagner un client, ou quand ça sort un peu de mon champ de compétences et que je connais une personne qui s'y connaît mieux que moi, je préfère le renvoyer vers cette personne-là. Donc, j'ai un côté assez sain sur cette partie-là de la concurrence. Mm-hmm. Je vois plus des confrères-consoeurs que des concurrents. Et pour les concurrents, on va dire, dans la catégorie de ceux que je n'estime pas, malheureusement, où je ne suis pas d'accord avec leurs valeurs, je ne suis pas d'accord avec, avec ce qu'ils font, comment ils le proposent, etc. Comme c'est des personnes, et ça, ça va être hyper cash que je vais dire, et peut-être qu'on va dire, mais elle est vraiment pas cool, en fait. Mais comme je ne les estime pas, ils ne comptent pas. Donc, c'est-à-dire, pour moi, ils ne comptent pas. Si un de mes clients va voir quelqu'un que je n'estime pas, entre guillemets, je vais plutôt, enfin, un de mes clients, un de mes prospects, plutôt, on va dire, mais dans ma tête, je vais plutôt être en mode, tant pis pour toi. Ou alors, soit tant pis pour toi, soit c'est que vraiment on n'avait pas à travailler ensemble de toute façon. Mmh. Tant mieux pour moi, en fait. Parce que j'ai évité un client avec lequel ça n'aurait pas matché de toute façon. Puisque si tu matches avec ces valeurs-là, c'est que tu ne matches pas avec les miennes, on va
ouais,
dire.
Bien sûr.
Donc j'ai ce côté, voilà. Je pense que c'est une relation que j'estime plutôt saine par rapport à la concurrence, par rapport à ça.
Je trouve aussi, parce qu'au final, tu ne perds pas d'énergie à les dénigrer ou autre, tu vois. Donc au final.
C'est clair. Et en plus, pourquoi je perdrais du temps, comme tu dis, du temps, de l'énergie, à faire ça, vraiment, non. Et de l'autre côté, par contre, je suis tellement contente de créer du réseau, d'échanger avec d'autres personnes, de connaître d'autres techniques, etc., que quand je rencontre des personnes, justement, que comme je disais, que j'estime et que j'aime beaucoup ce qu'elles font, bah, je suis justement hyper heureuse de pouvoir bosser avec elles, de pouvoir leur envoyer des clients, des prospects. Enfin, je trouve ça vraiment hyper épanouissant, en fait.
Ok, ouais, ça veut dire. C'est bah oui, enfin, je pense que c'est toi qui as raison en fait. Mais comme tu dis, c'est
mais ça met dur énormément de temps
de pas se comparer quoi.
On est d'accord. Moi, je me suis comparée très longtemps, hein, clairement. Alors, une des choses que je pourrais dire, c'est que il faut toujours essayer de, bon, c'est ce que tout le monde dit, mais toujours penser à pourquoi est-ce que moi je suis un peu différent ou différente. Qu'est-ce que j'amène en plus? Alors, quand je dis en plus, c'est pas forcément en mieux dans le sens où les autres sont moins bien, mais dans le sens où qu'est-ce qui fait que moi c'est différent en fait. Qu'est-ce que je voilà, c'est quand même un étincelle. À la mienne en fait. Et la deuxième chose, c'est potentiellement aussi sur les réseaux sociaux, et ça c'est un conseil que j'entends beaucoup et que je conseille aussi, c'est de se désabonner ou de mettre en sourdine les personnes qui nous rendent mal à l'aise, qui nous font culpabiliser ou qui nous font croire qu'on n'est pas bon ou autre. Si elles sont inspirantes, c'est top. Si elles nous rendent, nous font culpabiliser, il faut soit se désabonner, soit mettre en sourdine le temps de faire le travail sur soi et de réussir à trouver ça plus inspirant que dévalorisant.
Ouais, je suis tout à fait d'accord, et je rajouterais même qu'il faut appliquer ça dans les réseaux dans lesquels vous êtes aussi, genre les Discord, les Slack.
Bien sûr.
J'ai été pas mal dans des Slack où je me sentais pas bien, alors que, enfin, objectivement, il n'y avait pas de raison que je me sente pas bien, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je me connectais, je me sentais mal. Donc au final, j'ai fini par quitter pour ma santé, quoi, ma santé mentale.
Puis réduire les interactions, alors dans le sens trop de sollicitations, c'est aussi plus sain, parce que tu te recentres sur toi et sur tes besoins et sur ce que tu veux faire.
Mmh. Ok. Je passe à la question suivante, que j'aime beaucoup. Alors, on dit souvent que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, dans quel domaine et business estimes-tu que tu as des progrès à faire, et que fais-tu pour progresser ?
Alors oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et j'ai même créé plusieurs posts sur le sujet, que j'appelle ça le syndrome du cordonnier, clairement. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour moi sur cette partie-là, mais c'est vrai qu'à un moment, j'avais laissé ma com de côté parce que je me focalisais sur celle de mes clients. Sauf que pour avoir des nouveaux clients qui veulent te faire confiance, il faut quand même montrer que tu sais ce que tu fais. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc ça, j'ai pris du temps à justement prendre l'espace dans mon planning, dans mon agenda, de me dire j'ai besoin de travailler sur mon entreprise, pour mon entreprise et pas que pour mes clients. Donc ça, déjà, c'est le premier pas. Si l'élément sur lequel je sais que j'ai des progrès à faire, et c'est très drôle parce que j'ai commencé mon accompagnement, parce que je me fais accompagner, du coup je me fais coacher sur ce sujet-là ce matin, c'est très récent.
Tu as commencé ce matin ?
Ouais, j'ai commencé ce matin sur l'accompagnement autour de positionner ses prix, savoir se vendre à sa juste valeur, et parce que j'ai tendance à être très empathique, donc ce qui est très bien, mais ce qui est aussi problématique des fois, sur je sais que c'est compliqué pour lui ou elle, du coup je vais faire une ristourne, mais en fait des fois je faisais des ristournes qui étaient injustifiées et complètement à l'ouest, enfin par rapport au truc, et ça dévalorisait même mon projet, ce que je proposais, parce que c'était devenu un tarif tellement ridicule qu'il y en a plusieurs qui ne le prenaient pas au sérieux aussi.
Ouais,
donc j'ai un gros travail sur ça, j'en suis consciente à 100%, et j'ai commencé un accompagnement du coup avec quelqu'un que tu connais, puisqu'on en a déjà parlé en off.
D'accord.
Du coup depuis ce matin, donc c'est le début, et rien qu'en 2 heures déjà, là, ça, il y a eu un chemin de fait, clairement.
Ouais, bah après à mon avis c'est un truc de longue haleine encore.
Ouais, c'est ça.
L'argent c'est encore une autre question.
Ouais. Et en plus, c'est même pas le côté vouloir vendre cher. C'est même pas ça, en fait, la question. C'est pas j'ai besoin de vendre cher, c'est juste je veux vendre à la valeur que valent ce que je propose, en fait, tout simplement. Et pendant longtemps, je me suis dévalorisée, alors pas sur la partie de ce que je proposais, mais sur ce que ça coûtait, en fait.
Ouais, je comprends. On va parler d'un autre sujet dont on entend énormément parlé aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les routines. Alors du coup, je voudrais savoir si tu as des routines quotidiennes, oui, non, ce que ça t'apporte.
Alors, je n'ai absolument aucune routine quotidienne, et j'ai essayé d'en faire et ça ne me réussit pas. Je n'aime pas ça, je me sens bloquée. Alors pourtant, j'ai mes blocs temps et tout, mais les routines me posent un problème. Je suis routinière sur certaines choses, mais je n'aime pas me les imposer. Donc, j'ai pas de routine et je fonctionne mieux sans, clairement. Et j'estime qu'il faut un peu briser un peu ce côté. Il faut une routine pour réussir. Je suis pas d'accord là-dessus. Pour moi, déjà, ce serait plutôt des routines de semaines, en fait, des weekly, limite, parce que j'ai des choses qui se répètent dans les semaines, bien sûr. Mais j'ai pas de timing dédié à ça, on va dire.
D'accord. Ah, c'est intéressant, effectivement, de changer la temporalité de la routine pour, au lieu de la penser en journée, la penser en semaine ou en mois, tu vois.
Oui,
c'est
voilà.
Quelque chose auquel j'avais pas du tout pensé.
Comme les bilans, les choses comme ça, il y en a qui ont besoin de le faire par mois, d'autres par trimestre, d'autres par an. Changer la temporalité, si ça peut vous aider à avoir une routine au sens littéral du terme qui vous convient, franchement, vaut mieux.
Mais tu vois, j'aime bien poser cette question parce que, on parle beaucoup genre du miracle morning.
Bah, c'est ça.
Et il y a des gens à qui ça va vraiment convenir.
Ah oui, complètement.
Pas du tout. Moi, je sais que je suis hyper cyclique, c'est-à-dire que je vais mettre en place des routines, je vais les tenir pendant 2-3 mois, et puis au bout de 3 mois, ça me conviendra plus.
Oui, voilà, c'est ça. Tout ça, moi, j'en ai pas, en fait.
Très bien.
Vraiment, j'en ai pas, je saurais pas... Enfin, bien sûr que j'ai une routine dans le sens, je me lève, je prends mon petit-déj, machin, mais
oui, bah, normal.
J'ai pas de routine, tu vois, vraiment. Ouais, non.
Ok. Et est-ce que tu as du coup des petits plaisirs quotidiens, en gros, enfin, non, pas quotidiens, mais qu'est-ce que tu fais pour te détendre quand tu as besoin de te détendre, de faire une pause? Tu fais quoi?
La chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on a une maison avec un jardin. Et j'avoue que, alors, pas forcément quand il fait froid et qu'il pleut, mais quand il fait beau, ne serait-ce qu'aller me poser un quart d'heure dehors au soleil, même s'il fait pas très chaud, mais juste être dehors, ça me fait un bien fou. J'ai trois animaux aussi, donc souvent je sors avec mon chien dehors, j'adore. Ça me fait beaucoup de bien, lui aussi. Et s'il fait plutôt pas beau, si je suis en plus en mode. Pas bien, tu vois. Je vais plutôt prendre potentiellement un des chats, ou les deux chats d'ailleurs, des fois, quand vraiment ça va pas. Et ça va vraiment être juste le temps de se poser, de faire un peu des câlins avec les chats. Ça paraît bête, mais c'est vraiment un truc où ça me déconnecte et ça me fait un peu me dire, mais en fait, ton problème, ça va, quoi, et c'est bon, enfin, relativise-le, ça te fera du bien. Et pour me changer vraiment les idées, sinon, bah, c'est évidemment sortir voir des amis ou alors bah, jouer parce que je joue beaucoup et j'adore ça. En ce moment, je suis à fond dans Hogwarts Legacy.
D'accord, j'allais te demander.
Ouais, clairement, ça a été un achat day one. Et
D'accord.
je suis dessus. Alors, par contre, j'avance dessus alors, vraiment chill parce que je suis plutôt une slow runner là-dessus. J'adore compléter les choses petit à petit, découvrir l'univers, me balader, juste faire des tours en balai et tout. Enfin, voilà, je prends mon temps, mais ça me permet vraiment de sortir mon cerveau de tout le reste parce que justement, je suis dans un autre univers, donc ça me fait beaucoup de bien.
Ok, bah super. Dernière question, Bertie. Est-ce que y a un conseil que tu aimerais donner à la toi qui débutait dans l'entrepreneuriat?
Y a évidemment le côté arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Arrête d'essayer de tout faire. Arrête de faire des logos, des sites, du print, du web, des réseaux. Focalise-toi sur le truc qui te fait kiffer. Et c'est pas parce que tu te focalises que tu ne pourras pas faire autre chose. Parce que beaucoup de gens, c'est comme quand on travaille le persona ou le client idéal, ils disent oui, mais si mon client idéal, il a 35 ans, ça veut dire que les gens qui ont 40 ans. Non. C'est voilà, c'est un client idéal, c'est un profil type, c'est pas voilà. Et c'est pareil, quand tu veux te nicher ou autre, ça fait souvent peur. Mais vouloir tout faire, c'est très complexe et en général, et moi je m'en suis rendu compte, déjà tout ne te plaît pas et au bout d'un moment il y a des choses que tu fais moins bien aussi. Moi je m'en suis rendu compte et j'ai délégué des choses et maintenant je suis très contente d'avoir laissé la gestion de mon site par exemple à quelqu'un qui le fait très bien, qui kiffe le faire alors que moi j'étais rendue au stade où ça me saoulait et j'en avais marre de le faire quoi. Même si je sais faire, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Et ça, beaucoup de gens oublient que c'est pas parce que tu sais faire que tu as envie de le faire et que
Ouais.
c'est le truc qui te fait kiffer. Donc ça sera un peu le mantra à avoir en tête, je pense, quand tu te lances ou même plus tard. Hein, ça sert à toutes tes étapes, je pense, de l'entrepreneuriat.
Ouais, carrément. Bah, de toute façon, c'est une des grosses problématiques d'une grande partie de la population, d'être
Ouais.
people pleaser, vouloir plaire à tout le monde. C'est dur, ouais.
Et puis ça sert à rien, ça vouloir plaire à tout le monde, tu plais à personne.
Exactement. Bah, ça, c'est la base de la communication et du
Ouais,
marketing. Ce qu'on dit en
exactement.
premier.
C'est ça.
Ok, bah écoute, merci pour cet échange que j'ai trouvé fort riche. Tu m'as appris plein de choses.
Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup pour
Bah,
l'invitation.
tout le plaisir est pour moi. Et je voulais juste te demander une dernière chose. Est-ce que tu as, enfin, est-ce que tu as une actualité à passer? Où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils veulent discuter avec toi?
Alors, bah, ils peuvent me retrouver sur Instagram. @lostinweb, donc le nom de mon entreprise. C'est là où je suis le plus active. Je suis également sur LinkedIn, mais honnêtement, je suis plus active sur Instagram, clairement.
Ok.
Ils peuvent aussi aller écouter mon podcast, parce que j'ai un podcast aussi qui s'appelle Parlons Com, où on parle communication et entrepreneuriat. Et en termes d'actualité, bah, comme là, je viens de fêter les 10 ans, enfin, en tout cas, c'est l'année des 10 ans, il va y avoir bientôt un jeu concours, mais sur mon compte Instagram. Donc, voilà,
Ok,
j'en dis pas
bah
plus parce que
super.
c'est du teasing.
Ok, bah de toute façon, le compte Insta sera dans et le lien vers ton podcast seront dans la description de l'épisode.
Oui, t'inquiète.
Merci encore, Bertie, pour ta participation
Avec plaisir.
et du coup, bah, pour le tout des auditrices, je vous dis à la semaine prochaine.
Et oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté. mais c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc, par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine !